VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 18 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
En République démocratique du Congo, 3 personnes, dont un policier, ont été tuées hier dans des violences à Beni.
Au Mali, 1 mort, 15 blessés, dont 3 grièvement hier à Bamako, dans les manifestations de soutien aux jeunes activistes et hommes de radio Rasbadj.
En Centrafrique, le gouvernement accuse la mission des Nations Unies d'avoir laissé partir des rebelles sous le coup de mandats d'arrêt.
L'ONU a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur des exactions commises contre des civils, y compris des travailleurs humanitaires, par des soldats sud-soudanais.
En Turquie, un attentat fait 3 morts et 40 blessés.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidence, en grande difficulté dans les sondages, a remanié hier son équipe de campagne. Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En RDC, 3 personnes, dont un policier, ont été tuées hier dans des violences à Beni, dans l'est du pays, au dernier jour du deuil national, en mémoire d'une 50aine de civils massacrés le week-end dernier dans cette ville. Jean-Roger Bion.
En début de soirée, la tension restait vive à Beni où des coups de feu sporadiques étaient entendus et des manifestants continuaient à bloquer des artères à l'aide de barricades, d'après l'AFP. Dans un premier incident, un policier et un civil ont été tués lors de heurts violents avec les forces de l'ordre au cours d'une manifestation antigouvernementale. 9 personnes ont été également blessées, dont 6 civils et 3 militaires, a déclaré à la presse le maire de Beni, Edmond Masumbunko. Dans un deuxième incident, une femme soupçonnée d'être une milicienne ADF a été lynchée mercredi par la foule dans un quartier nord de Beni, non loin des lieux du massacre, a annoncé le maire.
Au Mali, 1 mort, 15 blessés, dont 3 grièvement, des véhicules incendiés. C'est le bilan des manifestations de soutien hier à Bamako aux jeunes activistes et hommes de radio Mohamed Youssouf Batili, dit Ras Batch. Il devait être présenté au juge pour atteinte aux mœurs après avoir été interpellé la veille. Kassim Traoré fait le point.
Après les manifestations de soutien aux jeunes activistes, le procureur près la cour d'appel de Bamako sort de sa réserve. Mamadou Lamine Koulibaly.
Les bureaux sont incendiés. Les livres, les codes qui sont achetés pour le travail des magistrats sont incendiés. Il va falloir les remplacer. Rien ne peut justifier cette inconduite. Et rassurez-vous, les auteurs et complices seront recherchés, traduits en justice et la loi s'appliquera dans toute sa rigueur.
Pour ce qui est de l'enquête ouverte, concernant les propos de Mohamed Youssouf Batch, de Ras Batch, elle va se poursuivre.
C'est pour cette raison qu'il a été interpellé et gardé à vue. Quand vous entendez des déclarations et des propos qui sont de nature à démoraliser nos troupes, ceux-là qui sont au nord, qui sont là pour la protection de la société, qui sont là pour la défense de l'État, qui sont là pour la défense de notre pays, il est inadmissible de laisser passer de tels propos.
D'après le procureur, cette affaire n'est pas un délit de presse.
Il est poursuivi pour des délits de droit commun. Il n'est pas poursuivi pour des délits de presse. Nous sommes dans un pays qui consacre et qui respecte les droits de réunion, la liberté d'association, la liberté d'opinion et d'expression seront garantis et respectés. Nous y veillerons, nous protégerons ces droits-là. Maintenant, nous n'accepterons pas que certaines dérives aussi s'installent dans la société.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, des membres du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué un convoi de personnel de l'immigration et de marchands qui se rendaient à Maïdougouri, dans le nord-est du pays, tuant les 5 commerçants qui ont été brûlés avec leurs camions. Selon l'AFP, qui cite des sources militaires, les 3 agents de l'immigration ont été blessés dans l'attaque, mais ont réussi à s'enfuir vers Maïdougouri, laissant les marchands entre les mains des combattants.
En Centrafrique, le gouvernement accuse la mission des Nations Unies d'avoir laissé partir des rebelles qui sont sous le coup de mandats d'arrêt qu'elle avait pourtant intercepté le week-end dernier. Une accusation que dément la mission onusienne, alimentant ainsi une polémique. Le point avec Eddie Issangou.
Selon le premier ministre centrafricain Simplice Mathieu Sarandji, la MINUSCA a laissé partir des membres de l'ex-SELECA, dont 2 chefs de guerre, Abdoulaye Hissène et Haroun Gaye, qu'elle avait arrêté le week-end. De son côté, la MINUSCA affirme avoir remis aux autorités centrafricaines 7 des 11 personnes interpellées, tandis que 4 sont soignés à l'hôpital de la MINUSCA à la demande du procureur de la République. Les porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Monteiro, promet que les 4 restants seront remis aux autorités centrafricaines dès que leur état les permettra, mais ne précise pas leur identité. Plus de 35 hommes lourdement armés étaient à bord du convoi stoppé par la MINUSCA vendredi soir. Des morts ont, selon l'ONU, étaient enregistrés du côté des rebelles dans les échanges des tirs avec les forces de sécurité centrafricaines provoquées quand les convois quittaient Bangui par force. La MINUSCA soutient avoir toutefois réussi à garder une dizaine de rebelles. Les Séléka avaient pris le pouvoir en 2013, renversant l'ex-président François Bozizé et aggravant les conflits interethniques qui a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés d'après les Nations Unies.
L'ONU a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur des exactions commises contre des civils, y compris des travailleurs humanitaires, par des soldats sud-soudanais à Djouba en juillet et sur l'incapacité des casques bleus à les empêcher. Des détails avec John Lyndon.
Dans un communiqué, le secrétaire général Ban Ki-moon s'est dit préoccupé par des allégations selon lesquelles la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, n'a pas réagi de manière appropriée pour prévenir ces graves actes de violence sexuelle commis à Djouba. Une enquête spéciale indépendante sera chargée de déterminer les circonstances de ces incidents et d'évaluer la réaction de la mission, indique-t-il, se déclarant de nouveau scandalisé par les actes de violence commis par les forces gouvernementales et des forces de l'opposition à Djouba du 8 au 11 juillet. Ban Ki-moon exhorte également le gouvernement sud-soudanais à enquêter et à poursuivre en justice les responsables. L'ONU a documenté au moins 200 cas de viol de sud-soudanaises, dont la capitale, pour le seul mois de juillet, perpétrés par des hommes en uniforme, notamment issus des troupes du président Salva Kiir. 4000 soldats onusiens supplémentaires doivent être déployés à Djouba pour assurer la sécurité. Près de 200 000 civils déplacés par la guerre civile qui ravage le Soudan du Sud depuis 2 ans et demi ont trouvé refuge dans 6 camps onusiens dans tout le pays.
Le gouvernement du Mozambique et la RENAMO, le principal parti d'opposition, ont annoncé hier un premier accord visant à un partage du pouvoir au niveau régional dans le cadre des pourparlers de paix qui se tiennent dans la capitale Maputo. Nani Talani fait le point.
La RENAMO, qui conteste le résultat des élections présidentielles et législatives d'octobre 2014, remportée par le Frelimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, réclamer le pouvoir dans 6 provinces sur 11 qu'elle considère avoir remporté devant l'intransigeance du gouvernement et alors que les rebelles avaient déjà repris les armes en 2013, les attaques armées se sont multipliées ces dernières semaines, faisant des dizaines de victimes parmi les civils. L'accord annoncé hier par les représentants des deux partis en présence des médiateurs internationaux doit aboutir à une modification législative permettant de satisfaire les revendications de la RENAMO dont le leader, Afonso Dhlakama, vit caché depuis octobre 2015. Il sera mis sur pied une sous-commission chargée de préparer une modification législative qui doit entrer en vigueur avant les prochaines élections de 2019 et comprendra une révision constitutionnelle et législative permettant une plus grande décentralisation de l'État mozambicain et doit être soumis à l'Assemblée avant fin novembre 2016. Les pourparlers de paix doivent se poursuivre afin d'aboutir à un cessez-le-feu et au désarmement définitif des rebelles de la RENAMO.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
3 personnes ont été tuées et 40 blessées jeudi à Van, dans l'est de la Turquie, par un attentat à la voiture piégée commis par le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, selon un responsable local.
Et puis, comment dirais-je, présidentielle américaine 2016, Donald Trump, le candidat républicain, a participé hier à une réunion d'information confidentielle avec des représentants des services de renseignement américains. Il s'agit là d'un privilège réservé aux 2 candidats, Trump et la démocrate Hillary Clinton, qui rivalisent pour succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche, afin de les préparer aux responsabilités.
Syrie, enfin, Amnesty International a dénoncé aujourd'hui une cruauté sous sa forme la plus vile dans ce pays. Électrocution, brûlure à l'eau bouillante, viol. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, le régime syrien a eu recours sur une grande échelle à la torture dans ses prisons où plus de 17 700 détenus ont péri en 5 ans de guerre. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
La Jamaïcaine Thompson est bel et bien la femme la plus rapide du monde.
Oui, la sprinteuse remporte le 200 mètres et réalise le doublé après sa victoire sur 100 mètres. Elaine Thompson remporte la finale du 200 mètres en 21 secondes 78 centièmes. Et encore une déception pour l'ivoirienne Marie-Josée Talou, qui termine quatrième au pied du podium, tout comme lors de la finale du 100 mètres. Mais elle n'a pas démérité tout au long de ces Jeux olympiques.
Nouvelle médaille d'or pour le Kenya hier.
Le Kenyan Conseslus Kipruto a été sacré champion olympique du 3000 mètres steeple, avec en prime le record olympique. Il s'impose en 8 minutes, 3 secondes et 28 centièmes devant l'Américain Evan Jaeger et son compatriote Ezekiel Kemboy. Ce dernier est disqualifié pour avoir coupé le virage. C'est donc le Français Mayedine Mekissi, double vice-champion olympique, qui récupère la médaille de bronze.
Autre médaille de bronze pour la Tunisie.
Marwa Amri a remporté la médaille de bronze du tournoi de lutte en battant l'athlète azérie Lulia Radkevich chez les 58 kilos. Elle entre dans l'histoire de la lutte féminine tunisienne en devenant la première à décrocher une médaille olympique.
Les autres résultats de ce mercredi.
L'athlète béninoise Noélie Yarigo, qualifiée pour les demi-finales du 800 mètres. Elle a été repêchée au temps aligné dans la quatrième série. Elle a terminé à la quatrième place avec un chrono d'une minute 59 secondes et 12 centièmes. Record national battu. Caster Semeya, la sud-africaine, est également qualifiée, tout comme la burundaise Francine Niyonsamba. En javelot, Julius Yego, le champion du monde kényan de la discipline, a réussi à se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi avec un jet à 83 mètres 55. Il ne reste plus aucun boxeur marocain aux Jeux Olympiques. La dernière représentante du royaume chérifien, Khadija Mardi, a été éliminée hier en quart de finale de la catégorie 69-75 kg. La Marocaine a été battue par une Kazakh à l'unanimité des juges. A noter également que le Kenyan devenu américain Paul Kipkemoi Chelimo a réussi le premier temps des séries du 5000 mètres en 13 minutes 19 secondes et 54 centièmes. En football, le Brésil a affronté le Honduras en demi-finale et Neymar a ouvert le score dès la 15e seconde pour la Seleção qui l'emporte très facilement 6 buts à 0. Pas de finale olympique en revanche pour le Nigeria. Les Super Eagles se sont inclinés 2-0 face à l'Allemagne, meilleure attaque du tournoi dans l'autre demi-finale. Compte rendu de la rencontre avec Thierry Kambundi.
20 ans après l'exploit d'Atlanta et 8 ans après Beijing, le Nigeria n'ira pas en finale du tournoi de football olympique. La Dream Team 6 a perdu sa demi-finale face à l'Allemagne 2-0. Lucas Klosterman à la 9e, puis Nils Petersen à la 89e minute ont scellé le sort du match en faveur de la Mannschaft contre une équipe nigériane visiblement en mal d'inspiration et de tranchant. John Obi Mikel et ses coéquipiers n'ont en effet jamais vraiment inquiété l'Allemagne qui a géré son match jusqu'au coup de sifflet final. L'espoir de médaille n'est tout de même pas totalement perdu pour la Dream Team 6 du Nigeria. Elle va affronter pour la médaille de bronze le Honduras, lourdement défait 6-0 par la Seleção brésilienne dans l'autre demi-finale. La finale du tournoi, elle, opposera l'Allemagne, meilleure attaque du tournoi avec 21 réalisations en 5 matchs, et le Brésil, pays hôte, conduite par sa star Neymar Junior. De quoi rappeler la demi-finale du Mondial 2014 et l'humiliante défaite 7-1 subie par la Seleção devant son public face à la même Mannschaft. De Rio, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et on rappelle qu'au classement des médailles, les États-Unis sont premiers devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Et à suivre ce jeudi, Idrissa, l'entrée en compétition du Sénégalais Baladiei en taekwondo chez les moins de 68 kilos et de David Bouy de la Centrafrique. La Camerounaise Annabelle Laure Ali se battra en lutte libre chez les moins de 75 kilos. Chez les moins de 53 kilos, sa compatriote Joseph Essombé Taïgo sera également de la partie, tout comme la Sénégalaise Isabelle Sambou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont signé l'Open Skies Agreement, visant à faciliter les liaisons aériennes entre les deux pays. L'Agence américaine des transports a autorisé les liaisons directes vers les États-Unis à partir d'Abidjan. Les premiers vols devraient être effectifs d'ici 2017, avait indiqué en juin le ministre des Transports Gaoussou Touré. Dassault Aviation a signé un contrat de vente de 4 Falcon 7X à l'Égypte pour près de 339 millions de dollars. Le Caire avait déjà acheté à l'avionneur français l'an dernier 24 avions de combat Rafale pour 5,8 milliards de dollars. En Mauritanie, le directeur général de la Société nationale industrielle et minière, Brahim Barek Mokhtar, a été limogé suite à la mauvaise gestion d'intrants agricoles. Il a été remplacé par Ahmed Salem Béchir, ministre du pétrole, lui-même remplacé par Abdel Fattah Mohamed lors d'un remaniement ministériel le mardi dernier.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle du 20 mars, a été inculpé hier d'incitation au trouble à l'ordre public. Un nouveau chef d'accusation, alors qu'un tribunal doit examiner aujourd'hui sa demande de remise en liberté provisoire. Idriss Fall a joint à Brazzaville maître Yvon-Éric Ibouanga, un des avocats du général Mokoko.
Il a été extrait de sa cellule et présenté devant le doyen du juge d'instruction qui lui a notifié un nouveau chef d'inculpation, à savoir incitation au trouble à l'ordre public. Il a refuté de manière catégorique parce qu'il ne reconnaît pas avoir commis cette infraction.
On ne lui a jamais notifié une autre infraction depuis son arrestation?
Depuis son arrestation, il lui a été notifié le chef d'inculpation, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Et l'instruction est suffisamment avancée, il n'y a pas d'élément objectif susceptible de justifier l'existence de ces deux chefs d'inculpation.
Qu'est-ce qui va se passer après?
Pour les deux chefs d'inculpation, nous avions formulé une demande de mise en liberté provisoire devant le doyen du juge d'instruction qui a rejeté notre demande et dans les délais légaux, nous avions relevé appel. L'affaire sur la liberté provisoire est pendante devant la chambre d'accusation qui se prononcera sur la liberté provisoire. Et la veille de vidange de son délibéré, on a notifié à notre client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, un autre chef d'inculpation. Après sa première comparution, le juge d'instruction a pris un autre mandat de dépôt, ce qui nous place dans une situation complexe compte tenu de la décision que nous attendons devant la chambre d'accusation.
Il y a de fortes chances que le général Mokoko ne puisse pas bénéficier d'une remise en liberté provisoire ce jeudi alors.
D'un point de vue juridique, du général Jean-Marie Michel Mokoko devra recouvrer sa liberté provisoire parce qu'il offre de suffisantes garanties de représentation devant la justice. Il a constitué 4 avocats et il a toujours déféré à toutes les convocations des institutions judiciaires. Alors, si la chambre d'accusation accorde la liberté provisoire au général Jean-Marie Michel Mokoko, il y a de fortes chances, ce qui nous détend, qu'il soit maintenu en détention du fait du chef d'inculpation d'incitation au trouble à l'ordre public, qui est une infraction dépourvue de base légale en ce qui le concerne. Donc le moment venu, nous allons discuter de cette infraction qui ne tient pas la route.
Maître Yvon-Éric Ibwanga, un des avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko à Brazzaville.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En République démocratique du Congo, la société civile du Sud Kivu est en pleine campagne de collecte de fonds, vivres et autres assistances en faveur des populations meurtries de Beni au nord Kivu voisin. La campagne Action Charité Beni Lubero. De Bukavu, les précisions de notre correspondant Ernest Muhero.
C'est une montagne de vivres et non-vivres qui s'accumule petit à petit au bureau de coordination de la société civile à Bukavu. L'appel à la solidarité vis-à-vis des compatriotes de Beni a reçu un écho favorable dans l'opinion locale. Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, Descartes Mpongé, parle déjà d'environ 1000 dollars reçus et plus ou moins 2 tonnes de vivres et non-vivres.
On ne peut pas fermer les oreilles par rapport à ce qui se passe à Beni Lubero parce que nous croyons que ce qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui, nous l'avons vécu. À Kanyola, nous l'avons vécu à Kasika, nous l'avons vécu à Makobola, nous l'avons vécu à Bukavu, Tulumamba, Nzovu, Shabunda, Mutarule. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. La population du Sud Kivu, elle est en train de donner qui des savons, qui les habits, nourriture, vivre et non vivre. Jusque-là, on est autour de 2 tonnes et plus. Je vois les sacs de riz, les sacs de haricots, les ballons de friperies. Il y a même les cahiers, l'argent. Nous sommes autour de 1000 dollars en termes de cotisation. Nous, les civils, ce que nous pouvons donner, c'est cette assistance. Et les autorités ont l'obligation de donner la sécurité et une paix qui soit durable.
Le coordinateur de la coalition congolaise pour la justice transitionnelle en RDC, Raphaël Wakenge, estime qu'il y a faible volonté politique dans la recherche des solutions à la montée des violences à Beni.
Nous ne sentons pas vraiment l'implication du pouvoir public. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique pour trouver des réponses appropriées à la situation qui prévaut à Beni. Toutes ces reprises des violences, on devrait déjà trouver une lueur d'espoir. Mais c'est le désespoir qui s'installe dans le chef des survivants. Qu'est-ce qu'on fait des recommandations de tous les rapports qui ont déjà été produits et publiés sur la situation de Beni? C'est tout cela qui pose problème. Et on chasse les défenseurs des droits de l'homme, Scott Campbell qui est parti, Jason Stern qui est parti, Ida Sawyer qui est parti. Peut-être on n'a pas besoin de voir de gens qui pourraient être témoins de ce qui est en train de se faire. Et peut-être demain, ça sera la chasse aux défenseurs des droits de l'homme congolais eux-mêmes. Nous voulons vraiment qu'on arrête avec la violence. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas être insensibles par rapport à ce qui s'est fait là-bas.
Pour Jean-Luc Ziali Roy, un acteur politique du Sud Kivu qui soutient l'initiative de la société civile, il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Nous avons à l'UPRDI marre des massacres de la boucherie humaine. Et ça nous rappelle les compatriotes de Mutarule tués gratuitement pour servir des causes égoïstes. Le peuple en tirera toutes les conséquences.
Le président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu appelle la diaspora congolaise à solidariser avec la population meurtrie de Beni.
La plupart des gens qui vivent à l'étranger, des non-compatriotes, ils sont partis par exemple dans des situations aussi de détresse. Voilà pourquoi nous lançons un appel pour que leur cœur soit touché, pour solidariser avec nos compatriotes de Beni, pour faire pression, obtenir même à travers des manifestations et témoigner ainsi cette solidarité qui va au-delà des frontières.
Dans le bureau de la société civile à Bukavu, la collecte se poursuit jusqu'au lundi 22 août. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, retour sur le dernier massacre en date à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants sont en colère contre le pouvoir après cette énième tuerie. Pourquoi cette partie du pays est-elle la proie des groupes armés ces 25 dernières années? Quels sont ces groupes armés? À qui profite cette guerre? Que fait le gouvernement de Kinshasa? Et quid du rôle des pays voisins? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Tchad, le poisson frais se fait de plus en plus rare sur les marchés de la capitale en ce mois d'août, alors que par le passé, c'est en cette période que le poisson abonde dans les différents marchés et se vend à bon prix. Tel est le constat de notre correspondant André Konmajingar.
Nous sommes au marché moderne de poissons frais situé au quartier Moursal dans le 6e arrondissement municipal de la capitale. Ce marché qui a été inauguré il y a 3 mois a une capacité de conserver les poissons au frais pendant plusieurs jours, ce qui permet aux commerçants détaillants de s'en procurer et les revendre aux consommateurs dans les différents marchés. D'habitude, c'est en août, appelé aussi Chartamani en arabe local qui signifie le mois le plus dur, que les poissons tels que les carpes ou tilapia et le Cynodontus chal ou garga en arabe local inondent les marchés. Malheureusement, cette année, ces poissons préférés des Tchadiens et dont le prix est à la bourse de tous se font de plus en plus rares sur les marchés. Younous Ousmane est le président du comité de gestion du marché moderne de poissons frais.
Ce n'est pas la rareté de poissons en tant que telle. Il y a du poisson au contraire dans le lac. Sauf que ce sont les adeptes de la secte Boko Haram qui écument cette partie du pays qui ont empêché les pêcheurs d'exercer leurs activités.
Pour la présidente de l'Union des organisations de femmes vendeuses du poisson du Tchad, Fahil Agoui, les raisons qui expliquent la rareté des poissons sur le marché sont ailleurs.
Cette carence, c'est dû à l'augmentation des fleuves. Les poissons viennent par période. Les gros poissons sont malins. Quand les pêcheurs vont les pêcher, les gros poissons de très loin, ils voient les dangers, ils se cachent. Tandis que les petits poissons ne sont pas encore mûrs dans l'urance, les pêcheurs arrivent à les capturer. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de bonne qualité de poisson au marché. Pour les problèmes de garga, garga est un poisson étranger. Garga aussi a sa période. S'il pleut, garga peut arriver au début des mois de juillet jusqu'à voir première semaine d'août. Donc les autres mois, ce n'est pas la période des gargas. C'est pour cela que vous ne voyez pas les gargas au marché.
Les commerçantes détaillants apprécient diversement la qualité du poisson qui se trouve au marché ces derniers temps.
Maintenant, il y a beaucoup de poissons, mais seulement qu'il y a des petites carpions. Bonne qualité, il n'y a pas assez. Il y a assez seulement que des carpions, là, les petites carpes que les gens n'aiment pas. Là. C'est ça qu'il y en a assez au marché.
Entre-temps, les consommateurs, quant à eux, se rabattent sur les légumes et gombo frais pour assurer le quotidien. André Kodmadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Présidentielle américaine 2016, les importants changements à la direction de campagne du candidat républicain Donald Trump continuent de dominer l'actualité. Mais le débat se poursuit également sur le terrain fiscal. Le point avec Timothée Donangmaï.
Pour rappel, Donald Trump a désigné comme directeur général de sa campagne Stephen Bannon, directeur du site d'information conservateur Breitbart, en remplacement de Paul Manafort. Ce dernier conserve son poste de président de l'organisation de la campagne et Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump, a été promue directrice de campagne. Malgré ces changements, Trump reste toujours le même homme qui réduira les impôts des super-riches, a lancé son adversaire démocrate Hillary Clinton lors d'un meeting électoral mercredi à Cleveland dans l'État de l'Ohio. L'ancienne secrétaire d'État a assuré que si elle est élue, elle contraindra les riches et les grandes compagnies, notamment celle de la place boursière de Wall Street à New York, à payer leur juste part d'impôts. Ces nouveaux fonds, dit-elle, permettront de financer, entre autres, l'accès à l'enseignement supérieur pour les couches défavorisées. Évoquant à plusieurs reprises le refus de son adversaire républicain de publier sa feuille d'impôts, la candidate démocrate a dit que c'est bien la preuve que le plan fiscal de celui-ci n'aidera que les riches. Madame Clinton a réitéré sa promesse de ne pas augmenter les impôts de la classe moyenne.
Toutefois, les républicains rappellent que du temps où elle était au Sénat, Madame Clinton avait voté en faveur d'un projet de budget des démocrates qui aurait accru les impôts des ménages gagnant moins de 250 000 $ par an, Timothée.
Le président de la Commission nationale du Parti républicain, Reince Priebus, affirme dans un communiqué que le plan fiscal de la candidate démocrate supprimera des emplois, réduira les salaires et entravera la croissance économique. Madame Clinton a proposé une augmentation de 4% du taux d'impôt sur les revenus de plus de 5 millions de dollars, ce qui créerait une nouvelle fourchette fiscale de 43,5%, tandis que les revenus de plus d'un million de dollars se verraient imposés à un taux de moins 30%. Donald Trump, lui, veut ramener à 33% la fourchette fiscale supérieure, qui est actuellement de 39,6%. Il compte aussi éliminer l'impôt sur la succession, actuellement 40%, et qui est appliquée aux héritages de plus de 10,9 millions de dollars. Madame Clinton, elle, veut porter ce taux à 45%. En somme, au plan fiscal, Clinton et Trump campent sur les positions traditionnelles de leurs partis respectifs. Toutefois, pour ce qui est de la remise en état et de la construction des aéroports, routes, ponts et autres infrastructures, le républicain Trump entend investir le double des 25 milliards de dollars proposés par la démocrate Clinton, une rupture avec l'orthodoxie du parti républicain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.